du pays de Gex, voilà, et qui est étudiant en théologie et qui est marié et qui a deux enfants. Voilà. Je vous remercie. Bon culte. Place à la musique.
Nous nous levons. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Comme vous le savez, la liturgie réformée est construite comme un dialogue, comme une série d'appels et de réponses, parfois chantées par l'Assemblée. Et ce dialogue, comme tous les dialogues, a un début et une fin. Son début, c'est... Il n'est pas de notre fait. C'est Dieu qui nous accueille, qui était présent, alors avant même que nous entrions dans l'Église. Et ce dialogue a une fin, nous le verrons. Il se termine sur notre réponse, chantée, mais aussi, évidemment, notre réponse dans l'action que nous allons mener en sortant de l'Église dans le reste de nos vies. C'est un point qui aura son importance plus tard, notamment pour la prédication. Gardons-le en tête. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous rassemble, il nous unit, il est présent parmi nous. Nous lui répondons avec un spontané, le 51-10, strophe 3.
Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison, laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Vivons ensemble, Alléluia. Dieu nous rassemble, Alléluia.
Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mis à part dans notre vie. Voici un temps de paix, d'écoute et de louange, un temps où par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Nous te louons, tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ. Il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour l'Esprit Saint. Il nous rassemble malgré nos différences et fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous chantons ta gloire. Nous allons chanter le psaume 36, les strophes 1, 2 et 3. C'est dans votre recueil, page 60. Ô Seigneur, ta fidélité.
Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toutes cimes. Ta justice est pareille au monde, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme. De la puissance du néant, tu veux sauver tous les vivants, toute chair, toute race. Les hommes se rassembleront autour de toi, ils trouveront devant ta force. Que précieux est ton amour dans ta demeure nuit et jour. La table est toujours prête et tu nourris ceux qui ont faim de l'abondance de tes biens. À la fraîcheur de ce torrent, nos cœurs se désaltèrent. La source de vie est en toi. Parle ta lumière, l'homme voit triompher la lumière. Maintiens ta grâce aux hommes droits, donne-lui lui qui vient vers toi l'appui de ta justice. Garde-moi de tomber aux mains de ces méchants, de ces hautains, de peur que je faiblisse. Car ils voudraient chasser les tiens et séparer de leur soutien, de leur seule assurance. Tes faits, tu les as renversés, ils ne pourront se relever. Gloire à ta délivrance.
Vous asseoir. Avant de continuer, je tiens à remercier votre communauté de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de venir ici pour présider à ce culte. Assurés de l'amour en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. En ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour. Tu nous as réjouis par ta création. Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ. Mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs, mais nous lui sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte. Devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous. Accorde-nous, Père, des cœurs reconnaissants, attentifs, disponibles pour ton service. Amen. Nous chantons le chant spontané 1204 sur nos petits feuillets.
De tout nous aimons, il me
quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point. Mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Nous pouvons chanter notre reconnaissance. Nous nous levons pour chanter le spontané 61-37.
Le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien.
Pardonné et libéré, nous pouvons enfin écouter ce que Dieu veut pour nous. Nous pouvons écouter ce qu'il nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres, nous dit-il. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Nous chantons le spontané 44-03.
De ton esprit remplis nos êtres, de ton amour remplis nos cœurs.
Nous asseoir. Nous prions avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Vous savez, dans nos cours de théologie en ce moment à Genève, on nous parle de cet ancien professeur de théologie très vénérable, qui doit être certainement décédé depuis, qui a formé nos propres maîtres en théologie et qui avait cette particularité que quand il devait faire le commentaire d'un texte de la Bible, à chaque nouveau cours, chaque semaine, il oubliait sa Bible. Alors, sur le chemin vers la faculté, il devait en acheter une nouvelle. C'était l'époque où les Bibles n'étaient pas... où les livres n'étaient pas décachetés, où il fallait les décacheter à la main avec un petit couteau. Et donc à chaque cours, il arrivait avec sa Bible toute neuve et la décachetait avec un petit couteau qu'il avait sur lui et il reprenait sa lecture où il en était. Et à chaque fois, comme il abordait le texte sous un angle un peu nouveau, il allait un peu plus loin dans les détails, eh bien le cours reprenait à chaque fois au même point, à la même page décachetée, et à chaque fois on découvrait de nouvelles choses. Ça m'a toujours étonné cette histoire et je me suis toujours demandé mais pourquoi oublie-t-il chaque jour sa Bible mais il n'oublie jamais de prendre un couteau pour décacheter la nouvelle Bible qu'il venait d'acheter. Et je crois que nous allons essayer de nous inspirer de son exemple pour lire la Bible aujourd'hui, pour que nous lisions ce texte que nous avons déjà lu des centaines de fois comme si c'était une toute première Bible que nous n'avions pas encore décachetée, nous n'avions pas encore ouverte, toute neuve. Et nous allons demander, non pas que ce soit la même Bible à chaque fois, mais d'avoir toujours un esprit bien aiguisé comme un couteau pour pouvoir comprendre ce qu'elle a à nous dire. Ta parole, Père, est pour nous un ferment du royaume, un germe d'espérance. que par ton esprit nous la recevions avec simplicité et avec joie, que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais appeler Laurette à venir lire la première lecture biblique dans l'Ancien Testament. Et nous chanterons ensuite, comme à notre habitude, puis, comme à votre habitude, puis ensuite nous lirons la deuxième lecture, celle sur laquelle portera plus précisément le texte de la prédication. Alors il n'y a que deux lectures, là, j'ai pris que deux lectures finalement, mais on va chanter effectivement après les deux lectures. Excusez-moi.
Donc, ce sont les paroles du prophète Jérémie au chapitre 31, les versets 7 à 9. Ainsi parle le Seigneur. Acclamez Jacob dans la joie. Réservez un accueil délirant à celui qui est le chef des nations. Clamez, jubilez, dites, le Seigneur délivre son peuple, le reste d'Israël. Je vais les amener du pays du nord, les rassembler du bout du monde. Parmi eux, des aveugles, des impotents, des femmes enceintes et des femmes en couche. Ils reviennent ici, foule immense. Ils arrivent tout en pleurs. Ils crient « Grâce !» Et je les pousse, je les dirige vers les vallées bien arrosées, par un chemin uni où ils ne trébucheront pas. Oui, je deviens un père pour Israël. Éphraïm est mon fils aîné.
Enfin, nous lisons ce récit de guérison au 10e chapitre de l'Évangile de Marc, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin, en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Hui et David, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui criait de plus belle « Hui et David, fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appelle l'aveugle, on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» Rejetant son manteau, il se leva d'un bond et il vint vers Jésus. S'adressant à lui, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Rabboni, que je retrouve la vue !» Jésus lui dit « C'est ce qu'en sait. Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin.
Souffle du Dieu vivant, esprit créateur, un fait un seul corps. Ô jour de Pentecôte, enflammant les apôtres, souffle du Dieu vivant, esprit créateur, remplit l'univers.
Bien que ce récit nous parle d'une guérison miraculeuse, c'est aussi un texte utile pour comprendre ce que signifie suivre le Christ. Il y a bien des manières de suivre le Christ, je n'en connais pas une qui soit simple. Mais je pense aujourd'hui à ceux qui servent le Christ professionnellement, pour ainsi dire. Je veux dire les pasteurs. Ceux-là n'ont pas plus de valeur que les autres, mais ils ont une responsabilité particulière. Ils sont la porte d'entrée dans l'Église. J'ai remis il y a quelques jours un dossier de candidature pour prétendre à la charge de ministre du culte dans l'Église protestante unie de France. Et je ne vous cacherai pas que je l'ai remis d'une main tremblante. Nombre de pasteurs ont remis une candidature semblable avant moi. Nombre de pasteurs le feront après moi. Pourtant, ma main tremblait. Non pas de peur d'un refus, mais d'abord à l'idée de la responsabilité que j'allais devoir assumer à mon tour. Le propos qui suit s'adresse d'abord au futur pasteur, que je ne suis pas encore, ensuite aux chrétiens, que nous sommes tous, en tant que nous avons été appelés à suivre le Christ. Je crois que le mouvement même du texte biblique de ce jour m'autorise cette double adresse aux pasteurs et aux chrétiens. En effet, un double appel en sens contraire structure le récit. Appel de Bartimée à Jésus d'abord, et cet appel est d'ailleurs empêché par les disciples. Puis, de Jésus à Bartimée, et cet appel-là est facilité par les disciples qui l'enhardissent. Prends courage, debout, il t'appelle. Ma prédication épousera ce double mouvement. Dans un premier point, je m'interrogerai sur le rôle des disciples, ces pasteurs de l'époque, sur leur rôle dans la transmission de la foi. Et ce rôle peut être négatif, c'est le cas dans ce passage, au moins au début, alors même que ces disciples sont censés figurer les cadres de la nouvelle Église. Et dans un second point, je me pencherai sur la foi de l'aveugle Bartimée, foi dont on ne sait pas très bien si elle vient de lui-même ou de quelqu'un d'autre. Alors mon premier point d'abord, comment le pasteur peut-il transmettre la parole de Dieu sans la confisquer ? Les disciples protègent Jésus de la foule qui s'est formée aux abords de Jéricho. Mais voilà qu'ils sont alpagués par un aveugle mendiant de surcroît, qui doit certainement vouloir leur quémander un peu d'argent. Alors ils font ce qu'ils estiment bon pour leur maître. Ils rabrouent l'importun. Aidés par la foule, ils privent l'aveugle de l'accès au maître. Ils le rejettent dans les marges, symboliquement mais même physiquement, puisqu'il est dit qu'il se tient au bord du chemin. Voici comment, avec les meilleures intentions du monde, on en vient à se considérer comme les détenteurs d'une autorité religieuse. Les disciples font office de gardes du corps, de videurs de boîtes de nuit. Ils tranchent entre ceux qui sont dignes de rencontrer Jésus et les autres. Certaines personnes dans nos sociétés, du fait de leur statut professionnel, détiennent le pouvoir de filtrer l'information qui sera jugée digne de parvenir aux citoyens. Dans le langage des sciences de la communication, on appelle cela les gatekeepers, les portiers. Un journaliste, par exemple, choisit dans la masse des données celles qu'il estimera utile de transmettre au public. Cette fonction, à cause du pouvoir qui lui est associé, suscite des craintes et des jalousies, illustrées par exemple dans les violences commises contre les reporters couvrant les cortèges de gilets jaunes. Pourtant, il est de fait inévitable que certaines personnes, souvent à cause de leur statut dans les institutions, remplissent ce rôle de portier. Les pasteurs sont des gatekeepers. Comme représentants de l'Église, ils ont pour fonction de sélectionner pour leurs paroissiens ce qui est pertinent pour l'approfondissement de la foi, ce qui l'est moins, et ce qui représente un danger à écarter. Cette fonction est inévitable, car elle est générée par l'existence même de l'institution. Mais c'est aussi un pouvoir qui a quelque chose d'exorbitant, car il peut conduire à exclure certaines populations du petit cercle des initiés. C'est une exclusion semblable qui se produit dans notre texte. La foule estime visiblement que la venue du prophète Jésus, qui remplit la ville d'émoi ce jour-là, ne concerne pas ce mendiant. C'est encore une exclusion de ce genre qui se produisit plus près de nous lorsqu'il fut mis un terme à l'expérience des prêtres ouvriers. Une manière de dire que la classe ouvrière n'est pas le cœur de cible de l'Église. Un pasteur dans sa paroisse est semblable aux disciples entourant le maître. Il protège Jésus. Il le fait connaître en marchant devant lui, au risque pourtant de l'isoler du monde. Comment relayer la parole de Dieu sans la confisquer? Remarquons comment l'attitude discriminante des disciples ne cesse qu'une fois que leur maître appelle lui-même Bartimée. Dans la première partie de l'épisode, les disciples sont un protagoniste important de l'intrigue, mais ils ont un rôle d'opposant à la rencontre, qui va tout de même se produire entre Dieu et le mendiant. Dans la seconde partie du récit, les disciples s'effacent et permettent alors la tenue du dialogue entre Jésus et Bartimée. Ils facilitent même ce dialogue en encourageant, en soutenant la démarche de l'aveugle. Voici un indice pour nous, l'Église. Toutes les fois où nous prenons sur nous de faciliter la tâche de Dieu en sélectionnant ceux qui méritent d'entendre sa parole, nous lui faisons obstacle. Mais Dieu est bien assez capable d'appeler qui il veut. Ne soyons pas comme une digue jetée en travers de son cours. Ayons confiance en Dieu et aidons ceux qui sont appelés à vivre à leur tour de leur confiance en Dieu, plus serait trop. Voilà tout ce que nous pouvons faire. J'en viens à mon second et dernier point. Nous venons de voir que la rencontre entre Jésus et Bartimée se fait malgré les disciples, bien plus qu'avec leur aide. Mais il est moins évident de dire grâce à qui, de Bartimée ou de Jésus, cette rencontre a eu lieu. Mon deuxième point, ce sera en quelque sorte qui appelle qui. Dans cet épisode, il semblerait que tout le mérite de la rencontre revienne à l'obstination de Bartimée à appeler Jésus. Par deux fois, il le supplie, et le voilà qui se jette en avant, sans prendre même le temps de saisir son manteau, qu'on imagine déplié devant lui pour recevoir les aumônes. Il se précipite avec l'urgence que Jésus recommandera plus loin dans l'Évangile au jour du jugement. Je cite « Ce jour-là, que celui qui est au champ ne retourne pas chez lui pour prendre son manteau. » D'ailleurs, Jésus, en lui rendant la vue, ne lui déclare-t-il pas « Ta foi t'a sauvé », laissant entendre qu'il ne doit ce miracle qu'à sa persévérance. Mais voyez comment l'auteur de l'évangile de Marc, avec une subtilité qui est vraiment la marque de son talent d'écrivain, glisse dans le texte des indices qui vont en sens contraire. D'abord, la façon dont Bartimée appelle Jésus surprendra l'oreille de celui qui est familier du vocabulaire du second évangile. « Fuyez David, fils de David », c'est une expression qui désigne le Messie, et qui ne nous étonne pas parce que nous l'avons entendu tant de fois dans l'évangile de Matthieu. Mais cette expression ne se trouve nulle part chez Marc, sauf en un seul endroit, ici même. Que ce mendiant utilise un terme aussi précis et rare pour désigner le Messie, voilà qui est remarquable. Étrange lucidité de l'aveugle, d'où tient-il cela ? Et c'est peut-être même ce détail qui surprend Jésus et le pousse à faire venir Bartimée, à le faire appeler. C'est à partir de ce point que Jésus, jusqu'alors passif, prend les choses en main. Les gesticulations de Bartimée seraient peut-être demeurées lettres mortes si Jésus ne l'avait pas appelé. Mais le plus important, c'est ce que Jésus lui dit. « Ta foi t'a sauvé, c'est ce qu'elle sait. » Ou plutôt, la façon dont il lui dit cela. Vous me pardonnerez, j'espère, une toute petite précision grammaticale. Mais pour exprimer cet acte de salut, Marc emploie ce temps qu'en grec on appelle le parfait. Or, le parfait, c'est une forme de verbe, assez rare dans le Nouveau Testament, et même, à vrai dire, dans tout le grec de cette époque. Ça veut dire que quand on en croise un dans le texte, on ferait bien de faire attention, parce qu'il se passe quelque chose. On peut se douter que l'auteur ne l'a pas employé par hasard. Le parfait, c'est ce qu'on appelle un présent résultatif, c'est-à-dire qu'il désigne le résultat présent et durable d'une action qui a eu lieu dans le passé. C'est une action achevée, une action qui s'est produite éventuellement il y a fort longtemps, mais qui est pourtant vécue au présent. Nous ne possédons pas une telle conjugaison en français, ce qui explique que la portée de cette phrase « Ta foi t'a sauvé, c'est ce qu'elle sait » est souvent perdue dans la traduction. Dans notre langue, c'est tout au plus une nuance, dont voici un exemple. Pour dire que quelqu'un est mort, par exemple, je peux employer un passé simple, et j'insiste alors sur un événement ponctuel qui a eu lieu à un moment précis du temps. Par exemple, il est mort à 3 heures. Mais il m'est aussi possible de dire simplement « il est mort ». Et dans ce cas, l'action de mourir a certes bien eu lieu, mais on insiste sur le résultat présent, permanent, de cet acte. Il est mort. La différence est de taille. Jésus aurait pu dire à Bartimée « ta foi t'a sauvé » au sens d'un acte de salut ponctuel qui a eu lieu dans le passé, qui est désormais terminé. Dans ce cas-là, il aurait voulu dire quelque chose comme « à un certain point de ton existence, tu as reconnu en moi le Messie, et au fond le miracle présent n'est là que pour valider publiquement ton mérite passé et ton salut passé. » En présentant les choses ainsi, le salut de Bartimée a eu lieu à un point quelconque du passé, et c'est maintenant chose faite. L'histoire est finie. Mais Jésus n'a pas dit cela. Il a dit « ta foi t'a sauvé au parfait », c'est-à-dire que le salut qu'il prononce a bien été pleinement réalisé, mais ses effets se font encore sentir dans le présent de Bartimée. Le salut n'est pas une chose qui appartient uniquement à notre passé, une bonne nouvelle sans doute, mais au fond une nouvelle ancienne. Le salut est une chose qui appartient à notre passé et à notre présent. Au passé, en ce que notre salut est pleinement réalisé, sans que nous ayons rien à faire pour cela. Au passé, en ce que notre salut, je disais, est pleinement réalisé, mais aussi au présent, en ce que ce salut fait encore écho en nous et nous pousse à agir. Le salut est une réalité présente, certes, mais qu'on découvre toujours comme déjà passé, comme hors de notre portée. Le miracle de Bartimée n'est pas alors la reconnaissance publique et sanctionnée une fois pour toutes du salut. C'est une nouvelle vie qui commence pour lui. Bartimée vit maintenant pleinement dans le présent de la foi. Une vie où il suivra le Christ, comme nous l'indique subtilement le narrateur, en déplaçant Bartimée de quelques centimètres. Lorsque Jésus est entré dans la ville de Jéricho, Bartimée était paratenodon, au bord du chemin. Et voici que lorsqu'il repart, Bartimée est entoodo, sur le chemin, et suivait Jésus. Heureux es-tu, Bartimée, toi qui étais sauvé et qui ne le savais pas, car maintenant tu sais. Heureux es-tu, car ce ne sont pas les hommes qui t'ont révélé cela, mais notre Père qui est dans les cieux. Heureux es-tu, Bartimée, car ce ne sont pas seulement tes yeux qui sont sauvés, mais tout ton être au présent, qui marches désormais avec Dieu. Heureux es-tu, Bartimée, car tu marches à la suite de Jésus. Heureux es-tu, car tu marches dans le présent de Dieu. C'est là le salut qui ne te sera pas ôté. C'est là ta part la plus belle. Et heureux sommes-nous si nous comprenons que la foi, comme la rose, est sans pourquoi. Certains êtres humains, comme Bartimée, en viennent à dire des choses et à faire des choses qui ne sauraient leur venir de leur propre fond. Des choses que les disciples eux-mêmes ne semblent pas comprendre. Heureux sommes-nous si, comme Bartimée, nous avons appelé et nous avons crié et pleuré en vain pour finir par découvrir que nous étions déjà appelés depuis longtemps et que sur notre compte, bien des pleurs avaient déjà été versés. Amen. Nous allons chanter le cantique 14-09 dans sa totalité, les deux strophes. C'est dans votre recueil, page 220. 14-09, page 220. Cherchez d'abord le royaume de Dieu.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, 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 alléluia.
Confession de foi. Éclairés, rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie, salut. Nous croyons qu'il est mort, ressuscité, pour nous donner la victoire sur la mort, l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité, par lui. Nous croyons en Dieu, notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui nous guide, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Amen. Chantons le spontané 45-16.
Mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi.
Voici le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute. Accepte toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. C'est maintenant le temps du partage des annonces de la communauté. Je vous laisse.
Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Si vous voulez des informations, il y a eu une formation hier, a priori, des prédicateurs laïcs du consistoire. Je crois que c'était organisé par Marie-Vonne. Donc, si jamais elle veut nous dire comment ça s'est passé, si ça a bien passé, mais c'est juste une pour information. Autre information importante, donc Monique Piachot, qui est ici, est toute dévouée à l'organisation du synode régional. Donc je ne sais pas, là aussi, si elle a envie de donner des informations ou si c'est nécessaire, mais pour toute question, il faut s'adresser à elle, c'est qui coordonne. Autrement, il n'y a pas d'annonce particulière à part les événements réguliers. Donc la chorale est normalement tous les mardis de 19h15. Parole et prière tous les mercredis à 18h. Pain, parole et partage, la prochaine réunion sera le dimanche 7 novembre, après le culte. Et je crois que j'ai fini. Les travaux du presbytère avancent. Merci à Franck de coordonner tous les travaux. Je pense que tous les volontaires sont toujours les bienvenus. Et en tant que trésorier, tous les volontaires pour participer financièrement sont aussi les bienvenus. Donc je veux d'abord remercier tous ceux qui donnent régulièrement pour la vie de l'Église, les remercier chaleureusement, c'est grâce à vous que ça fonctionne. Après, en tant que trésorier, on est toujours un peu inquiet parce qu'on n'a jamais l'impression qu'il y a assez d'argent dans les caisses. Donc, que ceux qui ont donné, s'ils peuvent donner encore un peu plus dans la mesure de leurs moyens, c'est bien. Et que ceux qui n'ont pas encore donné, ils pensent, ça sera très bien aussi. J'ai dit. Merci.
Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Père, ta parole nous a redit ton amour pour le monde. Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés, les exilés, les réfugiés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour les solitaires. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés, pour les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans ce monde. Donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Nous te prions pour ton Église, enfin, apprends-lui à rester fidèle. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons nous lever. C'est ce qu'en sait, ta foi t'a sauvé. Nous découvrons, lorsque nous entendons cette phrase, une réalité qui fait écho dans notre présent, mais une réalité qui est déjà accomplie, qui a eu lieu dans un passé peut-être lointain, peut-être que ce n'était qu'il y a quelques instants, nous ne le savons pas. Mais nous savons que nous sommes sauvés et que nous n'avons plus qu'à nous mettre en route sur le chemin en to odo, pour suivre le Christ. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez, allez avec vos sœurs, avec vos frères, dans dans l'audace et dans l'adoration. La joie de Dieu sera votre force. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même sa paix, en tout temps et de toute manière. Amen. Nous chantons le dernier spontané, 36-60.
En aimant le monde où tu nous envoies, ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Soyez, signe d'amour, de paix et de tendresse, ayez un cœur d'enfant.
Merci à vous tous, à vous toutes. Excellent dimanche à vous.